Dernière partie de la grande table, donc Caroline Brouet, c'est à vous.
Merci Antoine, merci. Eh bien, votre invité nous a dit juste avant de partir que les Français doivent se poser les bonnes questions. On va essayer de poser une question importante qui a été abordée finalement tout au long de votre journal, Antoine Mercier, cette question de la tension entre la liberté et la sécurité, de savoir comment lutter contre le terrorisme tout en protégeant nos libertés publiques. Et nous allons la poser à une grande figure du droit qui est autour de la grande table aujourd'hui, c'est Mireille Delmas-Marty. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes juriste, vous êtes professeur honoraire au Collège de France, vous avez occupé pendant 10 ans, de 2002 à 2012, la chaire d'études juridiques comparatives et d'internationalisation du droit. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Aujourd'hui, vous présidez Pharos, l'Observatoire du pluralisme des cultures et des religions, qui a été créé en 2012 et dont le but est de recueillir et de diffuser sur Internet des informations sur l'état du pluralisme dans le monde. On vous doit de nombreux ouvrages très importants, dont ces dernières années, Terrorisme, histoire et droit avec Henri Laurence, Liberté et sûreté dans un monde dangereux, et puis le dernier volume de la tétralogie sur les forces imaginantes du droit qui était intitulé Vers une communauté de valeurs. Pour discuter avec vous, autour de la table nous a rejoint Michael Fossel. Bonjour Michael.
Bonjour.
Titulaire de la chaire de philosophie à l'école polytechnique. Alors vous avez entendu tout ce journal, Mireille Delmas-Marty, et les mesures de sécurité qui sont d'ores et déjà mises en place. Est-ce que vous êtes du côté de ceux qui sont pour renforcer un arsenal législatif et sécuritaire, ou bien est-ce que vous pensez, comme par exemple Robert Badinter, que ce n'est pas par des lois et des juridictions d'exception, je le cite, qu'on défend la liberté contre ses ennemis, parce que ce serait là un piège que l'histoire a déjà tendu aux démocraties. Celles qui y ont cédé, dit-il, n'ont rien gagné en efficacité répressive, mais beaucoup perdu en termes de liberté et parfois d'honneur. De quel côté vous situez-vous ?
Je ne suis pas sûre qu'il faille se situer d'un côté. En fait, il faut quand même rappeler que l'état de droit, ce n'est pas forcément un état impuissant. On peut avoir un état de droit qui soit capable de résister, et le mot est important là aussi, à ce type d'attentat terroriste. Donc, ne choisissons pas entre l'un et l'autre, mais travaillons pour faire coïncider, converger l'état de droit et les libertés. Alors, cela dit, c'est facile à dire, c'est difficile à réaliser. Et là, je crois qu'il faut reconnaître la complexité du droit à l'heure actuelle. Parce qu'il y a cette tension entre sécurité et liberté, et il y a aussi la tension entre le droit national et le droit international à une époque, on l'a rappelé il y a un instant dans le journal, de globalisation. Donc on est face à une double contradiction, ce qui explique peut-être l'impression de confusion parfois quand on essaye de se retrouver dans le maquis du droit applicable. On a une accumulation de textes. Depuis 1986, la première grande loi contre le terrorisme, il y a une quinzaine de lois, ça fait presque une par an, et on a une impression de bricolage finalement juridique. Mais je crois que c'est un bricolage qui est nécessaire dans cette période, qui est une période de transition. Une période de transition parce qu'on part de l'idée que chaque État doit lutter comme il le peut et avec ses moyens contre le terrorisme, et en même temps, on découvre qu'aucun État, fût-il une superpuissance comme les États-Unis, ne peut lutter seul contre le terrorisme. Donc, on est vraiment dans une période de transition. Il faut apprendre à travailler avec un droit qui est extrêmement évolutif. Cela dit, j'ai entendu plusieurs propositions de faire un Patriot Act à la française.
Alors, ça, notamment Valérie Pécresse.
Oui, ça c'est le piège. Ça, c'est vraiment le piège dont parlait Robert Badinter. On peut être patriote sans Patriot Act. Et je dirais qu'on est meilleur patriote sans Patriot Act. Parce que le Patriot Act, il faut savoir sur quoi ça a débouché. D'abord, le point de départ, c'était la déclaration d'un état de guerre. L'état de guerre, aux États-Unis où la Constitution n'a pas d'état d'exception, c'est ce qui permet de transférer tous les pouvoirs au président des États-Unis. Ce qui a été fait, le président Bush à l'époque. Le résultat, ça a été une cascade de mesures que je ne souhaite absolument pas pour mon propre pays. Un fichage généralisé, des exécutions extrajudiciaires, ce qu'on appelle les exécutions ciblées, qui sont en plus accompagnés de drones tueurs qui font, comme on le sait, des dégâts collatéraux, c'est-à-dire qui tuent parmi la population civile, et la légitimation de la torture. Ce n'est pas ça que nous voulons. Ce n'est pas une sorte de circuit bis dans lequel tout serait permis. Parce que ça, c'est renoncer à la démocratie, c'est renoncer aux libertés.
Oui, mais alors quelle est la limite, Mireille Delmas-Marty ? À quel moment on peut dire qu'on bascule dans le danger, le piège dont vous parlez en citant le Patriot Act ? Et à quel moment le droit reste une résistance, une arme de résistance d'une certaine façon ?
Mais à la différence des États-Unis, la France a ratifié des textes internationaux, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Contrairement à l'image qu'on en a parfois d'une sorte d'angélisme un peu éthéré, la Convention européenne des droits de l'homme, elle est très réaliste. Elle permet des dérogations aux droits énoncés par cette Convention en cas de circonstances exceptionnelles. Donc on a la possibilité de déroger, y compris à la liberté d'aller et venir, y compris à la vie privée. Mais en même temps, cette convention pose un principe d'un noyau dur qui, lui, est indérogeable. C'est le droit à la dignité de tous les êtres humains, c'est-à-dire l'interdit absolu de la torture, des traitements et des peines inhumains ou dégradants. Et ça, c'est absolument essentiel. On peut protéger l'état de droit sans recourir à la torture et à ce type de traitement. Donc c'est un cas extrême, peut-être me direz-vous, mais ça montre que l'on peut conjuguer un état de droit avec une efficacité sans pour autant basculer dans un état de non-droit.
Effectivement, c'est quand même un cas un peu extrême, Mireille Delmas-Marty, parce que si l'on veut, quoi qu'on fasse, améliorer la sécurité, cela passera forcément par des mesures qui vont plus ou moins porter atteinte à ce qu'on connaît aujourd'hui, une certaine liberté. Je prends deux exemples pour qu'on reste concret. En ce qui concerne, par exemple, les conversations téléphoniques, l'écoute, la possibilité de conserver plus longtemps les écoutes téléphoniques. Deuxièmement, ces fameuses listes de passagers qu'on pourrait faire et s'échanger en Europe, je crois que ça va être le sujet du sommet européen. Est-ce que ce genre de mesures-là, vous êtes d'accord pour dire oui, ce sont des mesures qui vont du bon côté et en même temps, il faut bien reconnaître qu'elles accroissent la surveillance globale des citoyens.
Oui, mais alors sur les écoutes, là aussi, il y a une réponse qui est claire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une atteinte à la vie privée, mais la restriction de la vie privée, elle est possible quand elle tend à un but légitime. Le but est légitime s'il s'agit de protéger contre des menaces terroristes. Simplement, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les écoutes. Il faut une proportionnalité. Et c'est là que l'état de droit introduit un critère de proportionnalité. Il ne dit pas on ne peut jamais faire d'écoute, il ne dit pas la vie privée est un droit absolu, il admet des restrictions, mais à condition qu'elles soient proportionnées. Alors sur les listes noires, c'est un peu différent, parce que les listes noires, on a connu l'arrivée de listes noires qui étaient établies de façon totalement unilatérale par les États-Unis qui entendaient les imposer au reste du monde. Et là, ça me paraît quelque chose d'inacceptable.
Michael Fossé.
Oui, je crois que vous avez prononcé le mot le plus important, le mot proportionné. Et la difficulté qu'on a, c'est que le défi terroriste ou que le défi que le terrorisme impose à la démocratie, c'est précisément d'être un mode d'action disproportionné, c'est-à-dire qui précisément utilise des moyens qui sont totalement disproportionnés par rapport à la fin prétendue qu'il poursuit. Et toute la difficulté, c'est de retrouver de la mesure, je crois, de ne pas se laisser d'une certaine manière emporté par le mouvement, même lorsqu'il prétend être populaire, un mouvement qui, souvent, on le remarque, dans les sociétés civiles, va vers une demande de plus en plus grande de mesures. Et la difficulté ici aussi, c'est certainement que la plupart des lois antiterroristes qui ont été votées dans le monde et en France l'ont été presque systématiquement sous le coup de l'événement. Vous avez rappelé 1986 en France. On pourrait rappeler aussi, je crois, la loi sur la sécurité quotidienne en 2001 qui s'est faite dans la continuité, si je puis dire, ou dans la suite des attentats du 11 septembre. Et est-ce qu'on ne peut pas tout de même s'inquiéter un peu de voir d'ores et déjà une demande de législation sous le coup, je dirais, de l'émotion et de l'événement, c'est-à-dire à un moment où la disproportion terroriste, la démesure terroriste a fait ses effets les plus liberticides, je dirais, dans les consciences individuelles.
Oui, c'est la tentation un peu facile de la loi prétexte. la législation à chaud pour réagir à l'événement. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'urgence à changer la législation qui a été déjà changée, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, une quinzaine de fois depuis 1986.
Depuis 2012.
Et deux fois depuis 2012. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel est d'appliquer le dispositif existant et peut-être de mieux coordonner les dispositifs existants. Parce que c'est ça la difficulté, c'est l'accumulation non seulement de textes en France, mais l'accumulation de textes entre le niveau français, le niveau européen et le niveau mondial. Et c'est là qu'on a parfois du mal à s'y retrouver, qu'il peut y avoir des contradictions qui ne facilitent pas la mise en œuvre de ces textes. Donc je crois qu'il y a un travail de clarification à faire, de coordination, le mot a été prononcé plusieurs fois, arriver à coordonner les différents niveaux de textes, arriver à y voir clair sur le droit européen. Est-ce qu'il faut relancer l'idée d'un procureur européen ? Pourquoi pas, mais certainement pas à chaud.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Nous nous interrogeons ce midi sur la tension entre liberté et sécurité et droit pénal national, droit international, en compagnie de la juriste Mireille Delmas-Marty et aussi en compagnie de Michael Fossel qui pose des questions et dialogue avec elle. Michael.
Oui, je crois que le terme a été souvent employé à tort et à travers, et surtout à tort, le mot de guerre contre le terrorisme. Nous sommes en guerre, on nous a déclaré la guerre, comme si le fait qu'une guerre nous était, une guerre qui plus est supposée religieuse, nous a été déclarée, impliquait que nous devions y répondre sur le même mode. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette question, c'est-à-dire quand même sur le fait que dans le droit international moderne, même depuis Rousseau, la guerre c'est d'abord une relation d'État à État. Et que par conséquent, le fait que le terrorisme soit toujours aujourd'hui, à ma connaissance du moins, dans le défini comme un crime et donc appartenant au droit pénal, n'est pas aussi ou ne participe pas aussi d'une certaine exigence de proportion, c'est-à-dire de ne pas considérer que l'on peut entrer en guerre face à ceux qui ne représentent non seulement pas un État, mais même pas une religion, avec évidemment, vous l'avez d'ailleurs évoqué au départ, toutes les équivoques de ce concept de guerre appliqué au terrorisme, puisqu'en même temps, évidemment, il ne s'agit pas, pour ceux qui rentrent dans une telle rhétorique, de reconnaître, et ça on peut le comprendre, le statut de soldat à ceux auxquels ils s'opposent. Donc, est-ce que vous pourriez, du point de vue qui est le vôtre, juridique, revenir sur cette notion de guerre au terrorisme, ou de guerre contre le terrorisme, qui a déjà été utilisée dans les jours qui viennent de s'écouler.
Et qui peut peut-être mener parfois à un état d'exception, qui est peut-être
oui,
au contraire à l'état de droit.
L'amalgame, il remonte très clairement aux attentats du 11 septembre, puisque immédiatement le président des États-Unis a dit qu'il était en état de guerre, et ce n'était pas une métaphore, ce n'était pas la métaphore courante de la guerre contre le crime, c'était l'état de guerre avec, comme je l'ai rappelé, la transmission, le transfert de tous les pouvoirs au président. Et puis, au lendemain du 11 septembre, il ne faut pas oublier non plus que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait admis que les attentats eux-mêmes étaient un acte d'agression. Or, jusque-là, les actes d'agression ne pouvaient être commis que par des États. Donc, en admettant l'acte d'agression, c'était une manière d'entrer dans cette logique de guerre. Le problème, c'est que si on déclare la guerre au terrorisme, ben, d'abord, quand la déclare-t-on ? C'est pas évident. Quand commence vraiment la guerre ? Est-ce qu'elle commence le 11 septembre ? Est-ce qu'on est en état de guerre depuis le 11 septembre ? Mais surtout, la difficulté, c'est comment terminer cette guerre ? Une guerre entre États, en général, dans la conception classique, il y a une déclaration et il y a surtout un traité de paix. Si on déclare la guerre au terrorisme ou si on se considère comme étant déjà en guerre contre le terrorisme, qui va conclure un traité de paix ? En réalité, c'est une guerre sans limite, sans commencement ni fin et sans limite. C'est pour ça que mieux vaut certainement rester dans la logique pénale. Ce sont des crimes, mais ce sont des crimes extrêmement graves. Je ne suis pas sûre que le mot terrorisme, d'ailleurs, soit très clair en termes de crimes, parce que ce sont des crimes assez différents les uns des autres. D'habitude, derrière le mot crime, vol, on a la propriété, meurtre, on a la protection de la vie. Derrière terrorisme, on a quoi ? On a en réalité toute une cascade de valeurs à protéger, parce que le terrorisme, ça peut être un assassinat, assassinat avec barbarie, le cas échéant. Le terrorisme, ça peut être un crime de guerre, terroriser une population civile. Le terrorisme, ça peut être un crime contre l'humanité. Et l'histoire aurait sans doute bifurqué autrement si, au lendemain des attentats du 11 septembre, on avait reconnu ces attentats comme constitutifs d'un crime contre l'humanité. Parce qu'alors, la solution aurait pu être de créer une juridiction internationale ad hoc ou d'utiliser la Cour pénale internationale qui venait d'être créée mais qui n'était pas encore entrée en fonction. Et l'histoire aurait évolué différemment. Donc je crois qu'il faut rester dans une logique criminelle et pas guerrière. D'ailleurs, je crois que c'est Villepin qui disait qu'il faut résister à l'esprit de guerre parce qu'il conduit en fait à une guerre civile indéterminée et indéfiniment renouvelable. Mais en même temps, il faut être conscient de la gravité de ces actes et peut-être réfléchir davantage en termes de droit international, de crimes de guerre et surtout de crimes contre l'humanité.
Est-ce que les choses n'évoluent pas quand même un petit peu à partir du moment où on voit ce qu'on a appelé la territorialisation du terrorisme, évidemment l'État islamique, mais aussi maintenant la moitié de la Libye, le centre de l'Afrique, le nord du Nigeria. Est-ce que là, sur le plan même juridique, ne se pose pas la question différemment, puisque après tout, même si on ne parle pas d'État islamique, qu'on ne veut pas en parler, nous sommes quand même en guerre, au sens propre, contre cet État islamique, en tout cas en Irak.
Mireille Delmas-Marty.
Oui, mais l'État islamique n'est pas un État. L'État islamique, c'est en fait une organisation criminelle implantée sur plusieurs États, sur le territoire de plusieurs États. Le nom d'État islamique est là aussi un piège, parce qu'en réalité, ça ne veut pas dire État. C'est l'idée du califat, donc d'une organisation transfrontière. Ce qui fait qu'il est difficile d'imaginer que l'on passe un traité de paix avec le soi-disant État islamique. C'est une organisation criminelle et qui doit être traitée comme telle. La question de territorialisation, on est dans une situation où beaucoup d'actes sont des actes transfrontières. La préparation se fait dans plusieurs pays à la fois et l'action, la répression doit se faire aussi simultanément dans plusieurs pays. Donc je crois que le concept de crime contre l'humanité est plus opérationnel que le concept de guerre, qui nous conduit à l'impasse, parce qu'une guerre de ce type, c'est une guerre sans commencement ni fin.
Vous dites préférer la logique criminelle à la logique guerrière dans les termes mêmes, et donc aussi parler d'individus plus que d'État, parler de terroristes plus que de terrorisme. Et justement, j'aimerais, mais alors, en revenant sur le territoire français, vous poser des questions en termes d'individus. Tout à l'heure, l'invité d'Antoine Mercier dans son journal parlait de 376 djihadistes sur les quelques 1000 ou 1500 qui sont recensés, qui sont en ce moment en Syrie et en Irak. Est-ce que le droit prévoit quelque chose pour ces personnes qui vont revenir? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces personnes qui reviennent et qui sont déjà mises sous surveillance, surtout avec ce qui s'est passé la semaine dernière, dans un premier temps? Dans un deuxième temps, c'est aussi une question que je voudrais vous poser par rapport à ce monsieur Koulibaly qui a été libéré en mars 2014 après avoir bénéficié d'une remise de peine d'un an. Il était condamné fin 2013, mais il était incarcéré depuis 2010. Et vous dites, Mireille Delmas-Marty, vous avez écrit dans Liberté et Sûreté dans un monde dangereux, en partant de la loi française relative à la rétention de sûreté adoptée le 25 février 2008, que sur le critère de la dangerosité, on pouvait maintenir en détention un condamné qui a purgé sa peine pour un an renouvelable indéfiniment. Est-ce qu'on n'est pas là dans une contradiction? Donc sur ces deux aspects, le « une fois que la personne est incarcérée » et le « avant qu'elle soit incarcérée » ou même « avant qu'elle agisse », soupçonnée d'actes terroristes soupçonnés à venir, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce que le droit peut prévoir?
Ça, c'est une des questions les plus difficiles. C'est le débat entre dangerosité et culpabilité. Alors, jusqu'où peut-on aller dans l'anticipation? Le droit pénal, traditionnellement, c'est une réaction après le crime. Donc, c'est une culpabilité parce qu'on peut établir la preuve de la participation à un crime. Il y a une faute qu'on punit comme telle. Ensuite, la dangerosité, c'est en amont. C'est-à-dire qu'il s'agit de prévenir soit la récidive, dans la loi française de 2008, il s'agit de personnes qui ont commis des crimes, qui ont été incarcérées, qui ont exécuté leur peine et qu'on peut garder en prison parce qu'ils sont considérés comme dangereux. Alors, c'est un système qui est inquiétant en lui-même pour la criminalité de droit commun, parce qu'en fait, il débouche un peu sur ce qui s'est passé à Guantanamo, c'est-à-dire des internements à durée indéterminée. On garde les gens enfermés parce qu'on estime qu'ils restent dangereux. Ils n'ont pas commis une nouvelle infraction, mais on ne peut pas les libérer, on ne peut pas non plus les juger. Donc là, il y a une sorte d'impasse pour le droit, d'autant que tout le système pénal, il est construit sur l'idée que les individus sont responsables de leurs actes. Donc que leurs actes ne sont pas prédéterminés à l'avance. Si on étiquette un individu dangereux, on suppose qu'il va nécessairement récidiver ou commettre de crimes graves. Donc il y a un problème difficile à résoudre. Je pense qu'on doit pouvoir encadrer les mesures de prévention, encadrer cette notion de dangerosité qui est extrêmement floue. Parce qu'il y a la dangerosité psychiatrique, mais ce n'est pas de celle-là qu'il s'agit dans le dispositif français, et ce n'est pas non plus celle-là qui était mise en avant à Guantanamo. Ce n'était pas un problème psychiatrique. C'était une dangerosité que certains appellent criminologique, sans bien savoir comment la définir. Alors, je pense qu'on peut encadrer davantage en ayant des critères objectifs. Je ne crois pas qu'aucune commission soit en état de prédire l'avenir de telle façon qu'une personne devra nécessairement être un récidiviste si on ne le libère pas.
Non, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'Amedi Coulibaly, ou qui vont penser certainement qu'Amedi Coulibaly aurait dû rester en prison parce qu'il était considéré comme dangereux, même s'il s'était bien comporté en prison. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a bénéficié d'une remise de peine. Il est sorti avec un bracelet électronique, mais voilà. Et comment empêcher?
Alors, c'est une tentation, évidemment, mais quelles seront les limites? Quelles seront les limites de l'incarcération pour dangerosité? C'est pour ça que je parle de critères objectifs. S'il n'y a pas de critères objectifs, je veux dire que petit à petit, toute une population peut être placée en détention.
Enfin là, ça faisait un peu plus d'un an seulement qu'il était sorti.
Oui, mais vous indiquez par là déjà une réponse possible, c'est de limiter l'incarcération pour dangerosité dans le temps. Dans le système actuel, c'est un an renouvelable indéfiniment. Donc ça veut dire que ça peut se transformer en perpétuité. Alors, un encadrement, ça peut être un encadrement avec des butoirs. Avec des butoirs, avec une obligation de revoir le dossier régulièrement en fonction de certains critères. Mais je crois absolument impossible, par rapport au principe de l'état de droit, d'accepter l'idée d'un internement à durée indéterminée, voire perpétuelle. Et sinon, c'est Guantanamo.
Et pour les 376 djihadistes qui vont revenir ou pourraient revenir?
Je crois qu'il y a des formes de mise sous surveillance qui n'impliquent pas forcément un internement, mais qui impliquent peut-être une vigilance beaucoup plus grande, puisque là, les failles dont on a parlé étaient justement sur la façon de fonctionner des services de renseignement et sur la façon d'exercer la surveillance. Avant d'arriver à l'incarcération total, il y a tout de même toute une série de possibilités de surveillance par la surveillance électronique, par exemple, par les renseignements. Il y a d'autres choses, ce n'est pas le tout ou rien. Ce n'est pas où on ne fait rien, où on enferme tout le monde. Il y a des possibilités intermédiaires qui sont certainement plus réalistes.
Michael Fossel.
Oui, on voit bien là sur ces exemples que le problème du terroriste, c'est que de proche en proche, il nous oblige, ou en tout cas il nous invite, parfois faut-il y résister, à redéfinir les catégories du droit en général. On a parlé de la dangerosité, on pourrait dire d'une certaine manière que ce que les psychiatres ou le pouvoir que les experts psychiatriques ont acquis, qu'on leur a donné d'ailleurs, de définir des critères de dangerosité, ici dans le cas du terroriste, ce serait par hypothèse, ce sont déjà en partie les renseignements qui l'auraient. Et là, je voudrais vous interroger sur une question qui est peut-être aussi l'une des plus importantes sur le terrorisme, c'est le problème, non peut-être pas tant de l'exception, de l'état d'exception, que de la dérogation, puisque c'est un droit dérogatoire en règle générale, le droit terroriste. Le problème, et on s'en est rendu compte déjà sur quantité d'exemples, c'est qu'une fois qu'une dérogation est acceptée pour le terrorisme, par exemple le fait qu'on a accepté, je crois, en 2001 en France, que la police puisse, sur sa propre initiative, opérer des opérations de fouille, c'est-à-dire sans droit judiciaire, eh bien, quelques années plus tard, je parle sous votre autorité, quelques années plus tard, ce droit dérogatoire a été élargi au vol et au recel. Autrement dit, il y a une dynamique tout à fait propre, qu'on voit bien d'ailleurs dans la dérive américaine du système du renseignement, une dynamique qui consiste finalement à appliquer tendanciellement au régime commun, au régime du vol, au régime de la, du crime, au régime commun du droit, ce qui initialement avait été prévu exclusivement pour des situations dites exceptionnelles comme le terrorisme.
Mireille Delmas-Marty.
Oui, vous avez raison, la dérogation a vocation à devenir la règle en fait. Il y a une sorte de phénomène de contamination, de propagation, qui en général joue dans ce sens-là. Mais là, une fois de plus, il faut invoquer les critères de l'état de droit, c'est-à-dire que je reviens à la jurisprudence de la Cour européenne, revoir les questions de qu'est-ce qu'une restriction nécessaire dans une société démocratique, quel est le but qui est le but légitime, dit la Convention, quel est le but légitime qui est poursuivi par telle restriction ou telle autre. Et là, on est obligé à ce moment-là de faire la différence entre une restriction qui a pour but de prévenir le terrorisme et une restriction qui a pour but de prévenir toute autre infraction de droit commun. Donc, les réponses, elles existent dans le champ juridique, mais elles sont complexes à mettre en œuvre. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le droit n'est pas simple, c'est pas binaire, les choses ne sont pas ceci ou cela, c'est conjuguer l'état de droit et les droits de l'homme. Et on a les moyens de le faire. La grande différence entre la France et les États-Unis, c'est que nous sommes dans un système qui est déjà encadré au plan international et nous reconnaissons la compétence d'une cour supranationale, ce que les États-Unis n'ont jamais reconnu. Donc ces glissements, on devrait pouvoir les éviter. Et je rappelle quand même que la Cour européenne des droits de l'homme est une des juridictions qui a le plus fortement résisté aux dérives du Patriot Act.
Vous parlez de prévention, vous dites aussi, Mireille Delmas-Marty, que le droit n'est pas binaire, que ce n'est pas simple, il n'est pas seul peut-être aussi. C'est une arme nécessaire mais pas suffisante. Et là, on peut en appeler à un autre moyen de la prévention qui est l'éducation. Peut-être qu'au sein de Pharos, cet observatoire que vous présidez, vous travaillez aussi puisque vous réfléchissez à cette façon que l'intolérance ne progresse pas et rejoignant aussi ce que vous écriviez à nouveau dans Liberté et Sûreté dans un monde dangereux, j'ai quand même envie de vous citer, à condition qu'elle ne provoque ni à la haine ni à l'exclusion, la peur des risques planétaires, et on y est, crée une solidarité mondiale involontaire d'où pourrait naître une volonté de vivre ensemble en une communauté de destin. On est au lendemain d'une immense manifestation de vivre ensemble et de communauté de destin. La question se pose maintenant de comment faire durer ça. Est-ce qu'au sein de Pharos, vous pensez pouvoir y arriver d'une certaine façon ? Ou contribuer
Pharos
à y réfléchir.
Pharos, c'est un observatoire du pluralisme, des cultures et des religions. Ce qui fait que Pharos s'affronte là aussi à une sorte de contradiction apparente, puisqu'il prétend la résoudre. D'un côté, on a l'universalisme des droits de l'homme. De l'autre, on a un autre texte qui est moins connu, mais qui a été adopté au lendemain du 11 septembre, qui est une déclaration de l'UNESCO, qui est devenue ensuite une convention, sur la diversité des cultures et des religions qualifiées de patrimoine commun de l'humanité. C'est très fort comme expression, patrimoine commun de l'humanité. La diversité est aussi importante à l'humanité que la biodiversité à la nature. Quelque chose de très fort. Simplement, on ne nous dit pas, dans la Convention de l'UNESCO, comment résoudre la contradiction avec l'universalisme. Comment fabriquer en réalité un universalisme pluriel ? Et c'est un peu ce à quoi nous nous attachons dans le cadre de Pharos, essayer de montrer comment on peut avoir des principes communs, mais des manières différentes de les appliquer selon les cultures, selon les religions. Et là aussi, on n'est pas dans le binaire, mais on est dans la complexité, dirait Edgar Morin. Mais c'est comme ça qu'on peut raisonner. Et on peut à la fois concilier la liberté d'expression avec la liberté de croyance, on peut concilier la liberté d'expression avec le respect de la vie privée. Et c'est à tous ces objectifs que Pharos se consacre.
Culture, la grande table.
Eh bien, comme on l'a vu, on peut penser avec le droit. C'est précisément le titre de la chronique de Raphaël Bourgois. Restez avec nous, Mireille Delmas-Marty, si vous le voulez bien, pour écouter Raphaël.
Oui, penser avec le droit, c'est le titre aussi, Caroline, du dernier numéro de la revue Tracé, qui propose donc de faire le point sur les liens entre les sciences sociales et l'analyse des outils juridiques. La question est importante. Il s'agit de savoir s'il faut aborder le droit en fonction de ses usages ou bien de sa technicité. Et elle divise depuis longtemps entre une vision dite externaliste, qui fait du droit un simple révélateur des structures et des contextes sociaux, et une vision dite internaliste qui se penche sur la production de normes par la justice. Tracé veut réconcilier l'analyse des outils juridiques et les usages politiques et sociaux du droit. Le but recherché ici, c'est d'abord d'affirmer, contrairement à ce qui a longtemps été dit, que le droit n'est pas autonome par rapport au monde social. Dès lors, ce qui est en jeu, c'est le rapport entre la production juridique de la norme et l'effectivité du droit, l'usage qui en est fait, si vous voulez. C'est tout le travail du sociologue, juriste et politiste Pierre Lascoum, dont on peut lire un long entretien dans ce numéro de la revue Tracé. Présenté comme l'un des principaux artisans des progrès et du renouvellement de la sociologie du droit en France, Pierre Lascoum est le tenant d'une approche interactive qui tient compte de toute l'épaisseur du jeu social dans la négociation et la construction des normes juridiques. La réciproque, c'est quand on lit Pierre Lascoum, qu'on pourrait donc changer la société, agir politiquement, tout simplement en pensant le droit. Dans cet entretien accordé à Guillaume Calafa et Arnaud Fossier, Lascoum constate une évolution des sciences sociales qui ne considèrent plus le droit comme un simple instrument de domination. La défiance qui existait avant a laissé place à une plus grande familiarité et à des interrogations comme « qu'est-ce qui fait droit ?» Comment et pourquoi invoque-t-on une règle? Pour montrer la complémentarité des démarches, Lascoum cite Max Weber, dont il est l'un des grands exégètes. Le sociologue allemand prend l'exemple d'une partie de cartes où il y aurait des tricheurs. Le juriste va considérer que le jeu est annulé dès lors que la présence de ceux ou de ces tricheurs est avérée. Mais pour le sociologue, le jeu continue tant qu'il reste un joueur persuadé que les autres respectent la règle. On voit là toute la complexité de ce qui fait droit. L'approche constructiviste de Lascoum inscrit les règles dans une histoire. Celles-ci peuvent se transformer au gré des intérêts et des croyances. En disant cela, on ne peut s'empêcher de penser à ce qui s'est passé hier lors du rassemblement unanimement qualifié d'historique. Si l'événement peut produire une norme commune, est-ce que défiler au nom de la liberté d'expression peut avoir un effet sur les chefs d'État présents hier et qui, pour certains, ne sont pas franchement des parangons de justice chez eux?
On va poser la question à Mireille Delmas-Marty. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais penser le droit, c'est important, bien sûr, mais il ne faut pas prendre le droit comme une sorte de boîte noire. C'est-à-dire, pour faire cette rencontre entre les juristes et les sociologues, il faut que chacun aille vers l'autre. Et il faut que les sociologues puissent entrer à l'intérieur de la boîte noire et être conscients de la complexité des questions juridiques. Du fait que le droit, c'est à la fois le droit à l'heure actuelle français, le droit européen, le droit mondial. On ne peut pas parler du droit comme en général. Le droit, c'est à la fois la sécurité et les libertés. Donc je crois que pour penser le droit, il y a un effort à faire du côté des juristes pour rendre accessible à tous la complexité actuelle de ce droit qui est devenu évolutif, donc instable, et complexe, donc non hiérarchique, mais interactif.
Merci beaucoup, Mireille Delmas-Marty, d'être venue au micro de la Grande Table. Merci à vous, Michael Fossel. Je veux juste te signaler que ce soir, vous serez participerez à une grande soirée de l'ACIMAD sur la question des étrangers. C'est à Paris. C'est de 19h à 21h à la Maison des Métallos dans le 11e arrondissement de Paris. L'entrée est ouverte et c'est en partenariat avec cette belle chaîne qu'est France Culture. À la technique aujourd'hui, c'était Emmanuel Dupuis et Élise Lure. On se retrouve demain.